Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on aborde notre dernière séance et donc je vous propose que nous restions sur le thème de la manifestation de Dieu, mais à partir du dialogue que Dieu entreprend avec nous. Et pour cela, je vous ai choisi une œuvre d'art, donc de Karl Heinrich Bloch, de 1872. Mais avant d'entrer dans la contemplation de ce tableau et aussi dans son interprétation, je vous propose qu'on aborde une dimension préalable à l'interprétation du tableau, c'est-à-dire le fait de regarder une œuvre d'art. Et qu'est-ce que nous voyons dans une œuvre d'art et surtout comment nous regardons? Parce que les artistes ont exprimé le sens mystérieux de l'écriture et l'ont exprimé en images et en œuvres d'art. Et cette manière d'exprimer et de représenter l'écriture en images doit nous interpeller, en tout cas nous interroger, à la fois sur la manière dont l'artiste a lu l'écriture, la manière dont il la représente et que devient l'œuvre d'art lorsque celle-ci est exposée au regard du spectateur. Donc on aura deux temps, un temps qui va aborder justement cette dimension du regard, que se joue-t-il, y compris en nous, lorsque nous regardons une œuvre d'art, et ce temps nous conduira vers le second temps, où là il sera vraiment question de l'œuvre de Bloch. Et je vous présenterai d'autres œuvres de lui qui sont très significatives de sa manière de peindre. Donc nous pourrons ainsi voir comment, à partir d'une œuvre d'art à caractère religieux, bien sûr, eh bien nous sommes placés devant l'écriture, mais aussi devant son interprétation, et comment le peintre interprète l'écriture dans l'image qu'il nous propose. Donc notre premier point s'intitule « Regarder une œuvre d'art ». Face à une œuvre d'art, la personne qui regarde est amenée par l'œuvre elle-même à faire en quelque sorte un saut, un pas, depuis l'image qu'elle regarde, vers ce que l'image donne à voir au-delà d'elle-même. Pour le dire autrement, l'image donne à voir ce qu'elle est, mais dans le même temps, elle va montrer ce qu'elle n'exprime pas, elle va être ce qu'elle ne montre pas. Il y a tout ça dans une œuvre d'art. Il n'y a pas que l'image que nous voyons, mais il y a aussi ce que nous ne voyons pas. Et donc, pour une œuvre d'art profane, il sera question du voir et de voir à travers l'image, mais que lorsqu'il s'agit d'une œuvre d'art à caractère religieux, eh bien les choses changent un peu, puisque là il ne s'agit plus simplement de voir, mais il s'agit d'être déplacé vers la dimension du croire, c'est-à-dire est-ce que nous croyons à travers ce que l'image nous montre, est-ce que nous croyons qu'elle nous montre vraiment ce passage de l'écriture. Vous voyez bien que notre connaissance préalable de l'écriture nous place devant l'œuvre comme un spectateur particulier, parce que nous avons une connaissance préalable de ce que l'œuvre représente. Si nous n'étions pas des spectateurs particuliers connaissant l'écriture, nous serions devant la représentation d'un homme un peu particulier, parce qu'il y a la tête, il a un halo blanc autour de la tête, qui s'adresse à une femme et lui-même est assis à côté d'un puits. Et nous n'aurions qu'une représentation très factuel de l'œuvre. Alors que si nous sommes un spectateur qui a une connaissance préalable de l'écriture, nous avons déjà en résonance quelques versets que nous avons déjà entendus ou que nous connaissons sur ce récit et sur cet épisode où Jésus s'adresse à la Samaritaine. Donc il y a une manière de la part du peintre de nous mettre en relation, pas simplement avec une image, mais de nous mettre en relation avec l'écriture et avec quelque chose qui dépasse l'écriture et qui dépasse l'image. Et donc, ce dépassement fait appel à notre capacité de nous laisser impressionner par une image. Donc, notre premier point, le 1-1, le regard comme échange. Regarder une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, eh bien c'est déjà accepter d'entrer dans un échange particulier, parce que, indépendamment de ce que la vue perçoit et de ce que notre intelligence comprend de ce qui est représenté et de ce qui est interprété par l'œuvre ou dans l'œuvre, eh bien nous sommes dans une position, on va dire, de mouvement, particulièrement par notre regard, alors que ce que nous regardons est inerte et fixe. Et il y a un échange entre nous et l'œuvre uniquement par la position et les positions de notre regard. Et on va partir de la Samaritaine au visage du Christ, peut-être le socle, et on repart vers le fond de l'œuvre. Et on pourrait ainsi tracer un mouvement dynamique de notre regard sur l'œuvre, alors que l'œuvre elle-même est tout à fait inerte et fixe. Et donc on pourrait dire que notre regard va permettre de donner vie à l'œuvre, alors qu'elle est totalement inerte et fixée. Et on pourrait même dire qu'à chaque fois que nous regardons une œuvre, ou qu'à chaque fois qu'une œuvre est regardée et interprétée, eh bien à chaque fois elle prend vie par l'interprétation, par ce regard différent, parce que nous sommes différents, et que nous sommes attirés par des lieux particuliers de l'image. On pourrait donc dire que le spectateur n'est pas passif, il est actif lorsqu'il regarde. Et on pourrait même dire qu'il a une certaine responsabilité. Parce que lorsqu'il regarde l'œuvre d'art l'amène à la responsabilité de savoir comment il doit la regarder. Et ça, c'est le travail du peintre. Lorsque le peintre décide de placer en arrière de l'image, c'est-à-dire en arrière du plan principal qu'est le personnage ou que sont le personnage de Jésus et de la Samaritaine, lorsqu'il décide de mettre les apôtres dans le fond du paysage, il a une intentionnalité particulière. C'est-à-dire qu'il fait appel à notre capacité à repérer dans l'image des détails que lui-même a placés avec une intentionnalité particulière. Pourquoi les apôtres sont-ils plus petits en arrière-plan que la Samaritaine et Jésus? Pourquoi Jésus est-il assis et la Samaritaine est-elle debout? Donc notre regard, et par notre regard, nous sommes amenés à comprendre ce que nous regardons pour pouvoir l'interpréter. Toutefois, l'enjeu ne se situe pas seulement au niveau de pouvoir interpréter ou de pouvoir regarder, parce que c'est plutôt quelle est l'adéquation ou la coïncidence, mais l'adéquation entre ce que nous regardons et l'intentionnalité de l'artiste. Il y a quelque chose que l'artiste nous donne à voir qu'il a créé avec une intentionnalité, parce qu'on ne crée jamais sans intentionnalité, on n'écrit jamais sans une intentionnalité. On écrit pour être lu, on peint pour être regardé, on fait une sculpture pour être admiré. Donc il y a une intentionnalité de l'auteur en faveur du spectateur, de manière à ce que le spectateur puisse comprendre sa démarche et comment il a mené son œuvre. Sauf que quand il s'agit d'une œuvre d'art à caractère religieux, bien vous voyez bien que l'interprétation théologique n'est jamais loin, parce qu'il y a l'interprétation de l'écriture, si nous la connaissons, et si nous la connaissons, alors on est très rapidement versé à donner une interprétation théologique. Donc l'œuvre d'art, elle a cette capacité, lorsqu'elle est religieuse, à caractère religieux ou sacré, à nous mener vers ce caractère-là et donc à percevoir quelque chose de divin. Est-ce qu'il y a quelque chose de divin lorsque nous regardons dans la perception de ce que nous voyons? Est-ce que nous percevons quelque chose de divin dans l'œuvre? Et c'est notre point 1-2. L'art permet-il la perception du divin? Donc dans ce point 1-2, on pourrait dire que quel que soit l'acte de créer, celui-ci est toujours, et je viens de vous le dire, toujours conditionné par l'intentionnalité de l'auteur. On ne crée ni on écrit sans l'intentionnalité d'être vu ou d'être lu. Mais qu'elle soit autobiographique ou métaphorique, l'œuvre demeure toujours une expression, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit picturale. C'est-à-dire une expression qui cherche à traduire un monde, un univers. Ici, l'auteur cherche à traduire l'épisode de la Samaritaine se rendant au puits. Donc on est face à un monde, une époque où pour aller trouver de l'eau, il fallait faire des kilomètres et aller se rendre au puits pour puiser de l'eau. Donc on est face à un monde. Mais ce monde, ce n'est pas le monde de l'artiste. Donc il l'a forcément, obligatoirement, interprété l'époque, le puits, la végétation, le chemin, le lieu où se trouve ce puits. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun entre l'artiste et celui qui regarde. Et ce qu'il y a de commun entre lui et son œuvre, c'est l'époque que nous partageons, l'époque commune. Simplement, l'artiste, il va traduire un sentiment. Lorsqu'il a créé son œuvre, eh bien Bloch a traduit d'abord la manière dont il était impressionné par le récit. Et son œuvre retraduit son sentiment propre. Et c'est parce qu'il a créé avec son sentiment qui lui est personnel, avec son impression personnelle, et grâce à son talent, alors nous pouvons nous-mêmes être impressionnés par ce que nous regardons. Il arrive parfois, lorsque nous sommes dans un musée, que certaines œuvres nous laissent froid. Nous ne sommes absolument pas impressionnés, voilà. Il y a quelque chose qui doit passer de l'impression que l'artiste a eue, là vraisemblablement en lisant le récit de la Samaritaine, qui doit être retraduit en image, en couleur, dans son œuvre. Sinon, le spectateur non seulement ne sera pas impressionné, mais ne pourra pas lui-même interpréter l'œuvre comme elle se doit. Ça veut dire que dans l'interprétation, il y a fortement un caractère subjectif. Vous voyez bien, entre l'œuvre et le spectateur, il y a la rencontre de deux subjectivités. la sienne et la nôtre. Ça veut dire que l'œuvre d'art, elle n'est plus seulement une image, mais elle devient un moyen de médiation, un moyen de mettre en relation, presque de manière en trois relations communes, de mettre en relation son interprétation de l'écriture, le tableau et notre propre interprétation du tableau. C'est-à-dire que l'image, elle ne nous montre pas simplement une image factuelle, mais quand je vous disais que l'image, elle montre ou elle ne montre pas, c'est précisément l'écriture qu'elle ne montre pas, qu'elle traduit dans un autre langage. Et c'est là que le langage de l'œuvre, lorsqu'elle a un caractère religieux, peut aller vers un langage théologique. Mais on comprend bien que le langage de l'œuvre, il n'est pas d'abord théologique. C'est pas ça, il ne vise pas ça l'artiste, il ne vise pas la théologie. Il vise à rester fidèle le plus possible au récit qu'il veut mettre en image. Sa fidélité, elle est là. Son intentionnalité, elle est là. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a aussi une autre dimension dans l'œuvre d'art, c'est qu'elle a un caractère double. Elle est à la fois autonome et paradoxale. Elle est autonome parce qu'une fois que l'œuvre est terminée, qu'elle est soumise au regard du spectateur, alors, d'une certaine manière, elle n'appartient plus à son créateur. C'est-à-dire que l'intentionnalité que l'artiste a mis en peignant son œuvre se retrouve en second plan par rapport à l'interprétation que nous allons lui en donner. Vous voyez, ça veut dire que, et c'est la même chose pour l'écriture, on écrit un livre, une fois que le livre est écrit, ben, il vit sa vie, il est autonome, parce que celui qui lira comprendra et interprétera à sa manière. Donc l'œuvre d'art, elle porte en elle cette espèce d'autonomie qui fait qu'elle va vivre sa vie d'œuvre d'art et que l'intentionnalité de l'artiste va être seconde. Et puis en même temps, elle est paradoxale parce que l'œuvre ou l'image, justement, elle montre ce qu'elle est, mais dans le même temps, elle va être ce qu'elle ne montre pas. Et ça, c'est valable pour toutes les œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il y a du caché et en même temps il y a du dévoilé dans une œuvre. Il y a ce qu'elle montre et il y a ce qu'elle ne montre pas. On pourrait dire ici qu'on a tous les détails du récit de la Samaritaine et pourtant, on va lire le récit tout à l'heure, tout n'y est pas. Et pourtant l'essentiel est représenté. Avons-nous, par exemple, dans le récit, la main de Jésus et son doigt vers le ciel ? Non, c'est l'interprétation de l'artiste. L'autonomie de l'œuvre, elle prend effet quand nous, on va essayer de comprendre pourquoi Jésus a-t-il le bras levé avec le doigt levé ? Pourquoi a-t-il un halo autour du visage ? Voilà, tout ça, ce n'est pas dans le passage de l'Écriture. Donc, ce que contient l'œuvre, eh bien, a une autonomie par rapport au contenu, une autonomie donc par rapport à l'écriture elle-même, puisque l'artiste a représenté des choses qui ne sont pas dans le récit lui-même, et puis une autonomie par rapport à notre interprétation. Parce que tout à l'heure, on va regarder le tableau en plus grand, ben, je suis persuadée qu'on aura tous une compréhension, une interprétation différente avec et des choses qui vont se rejoindre. Donc l'image n'est plus seulement une image figurative pour nous lorsqu'il a un caractère religieux, ni analogique, ni symbolique, ni même métaphorique. C'est le cas avec cette œuvre d'art. Elle est juste une proposition médiatrice. Comment l'œuvre va nous permettre de rejoindre l'écriture et de rejoindre la compréhension théologique de l'écriture. On ne doit pas mettre de côté cette dimension théologique. L'œuvre d'art, elle peut être le point de départ d'une expression et d'une explicitation théologique particulière. Ça veut dire qu'il y a aussi dans l'image un jeu entre ce qui se dissimule et ce qui se montre. Donc en fait, il y a un aller-retour entre l'image et le texte. Et puis pour l'artiste, c'est l'aller-retour entre l'image et l'interprétation et le spectateur quand il est averti, quand il connaît un petit peu l'écriture. Donc l'œuvre d'art, elle peut nous interroger, et nous sommes souvent interrogés par l'art contemporain, par exemple. Il y a eu des belles représentations de Christ en croix par le sculpteur, alors je ne sais pas si je vais bien dire son nom, c'est Abdelkessem, je crois, mais vous vérifierez, où il y a plusieurs années, il a, au centre Pompidou, au rez-de-chaussée, dans le hall, il avait représenté des Christs en fil barbelé. Trois ou quatre Christ en fil barbelé. C'était absolument magnifique. Mais il avait représenté la souffrance humaine torturée à travers la souffrance du Christ lui-même. C'était son interprétation. Donc, ça avait choqué, mais en même temps, vous voyez bien que sa manière à lui d'aborder la dimension religieuse de la crucifixion a été dépassée par la réalité de l'expérience humaine par rapport à la souffrance. Et donc, cette expérience humaine, elle est éminemment théologique. Il n'y a rien là qui n'a rien à voir avec la manifestation de Dieu. Lorsque Jésus, Fils de Dieu, se manifeste sur la croix, et qu'un artiste décide de représenter le Christ en croix, il n'y a rien qui ne soit en dehors de la théologie. De la même façon que là, si nous considérons que nous sommes que devant une image, alors c'est que nous ratons le rendez-vous avec la manière dont Dieu nous parle, entre en relation avec nous, dans un épisode où Dieu s'adresse à une femme dans un lieu interdit aux Juifs, que les Juifs contournent parce qu'ils ne doivent pas entrer en Samarie. Vous voyez, il y a à la fois de la théologie, de l'écriture, et l'image, elle va bien au-delà de l'image représentée. Donc ça veut dire que le support profane qui est l'œuvre d'art va devenir le support théologique ou spirituel de l'interprétation de l'artiste. De découvrir qu'il y a ça dans une œuvre d'art, j'avais envie de vous faire partager, parce que je trouve ça particulièrement édifiant, et que lorsque le peintre ou le sculpteur a du talent, a de la technique, et comme je vais vous montrer d'autres représentations de blocs vraiment particulières, eh bien, à ce moment-là, les planètes s'alignent. On est en capacité de pouvoir admirer. Et puis en même temps, on n'oublie pas que c'est un art profane, c'est-à-dire qu'on doit lui laisser et lui garder son caractère profane, sinon ce serait une icône. Voilà, les icônes, elles, ont ce caractère sacré qui n'a rien à voir avec une œuvre d'art classique. Alors on peut dire que l'œuvre, elle est en quelque sorte transcendée par ce qu'elle représente, par l'écriture. Et c'est pour ça que je vous disais, on doit garder toujours la dimension de profane à l'œuvre, même si elle a un caractère religieux, parce que l'œuvre, elle n'est pas religieuse en tant que telle, c'est juste une image. Paul Ricoeur, que vous devez connaître, il parle même d'une poétique de la lecture, par rapport à l'écriture, une poétique. Voilà, on va représenter une poétique de la lecture. Et puis vous voyez bien que la poétique du regard, ben, elle s'adresse aux croyants comme aux non-croyants. Il y a dans l'image la possibilité d'une catéchèse, comme les vitraux dans les cathédrales, qui étaient des catéchèses pour ceux qui ne savaient ni lire ni écrire. L'image a une fonction très forte. On peut être frappé, impressionné, choqué, une mémoire abîmée par une image. Remettre ça. À la Renaissance, et la Renaissance italienne, les artistes se référaient à des traités, c'est-à-dire ils avaient des codes pour représenter. Et eux, ils pensaient l'univers était ordonné par Dieu. Donc, ce qu'ils représentaient en peinture ou en sculpture était toujours ajusté à la représentation qu'ils avaient de l'univers, parce que l'univers était organisé par Dieu. Et c'est pour ça que l'on va pouvoir retrouver des symboles, par exemple le triangle, parfois, qui représente Dieu. On a des représentations qui sont très... qui font partie de la composition de l'œuvre. Donc, la composition géométrique d'une œuvre va garantir son harmonie. Il n'y a pas d'harmonie sans géométrie dans une œuvre. Et on peut regarder la géométrie d'une œuvre en traçant ses lignes, les cercles, les diagonales, les verticales, les horizontales. Et un artiste crée en ayant conscience de cette géométrie. Elle n'est pas étrangère à l'impression que l'œuvre suscite. Et c'est par ces lignes-là que nous sommes face à un jeu entre le visible et le sensible et l'invisible. Et pour vous illustrer cela, c'est-à-dire vous illustrer le fait qu'un artiste peut représenter un objet ou des personnages ou un paysage, et que l'interprétation puisse être totalement différente et éloignée de ce qu'il veut représenter. Et pour cela, je vais vous montrer ce tableau-là, que vous connaissez peut-être, les vieux souliers aux lacets de Vincent Van Gogh. Alors, voilà, on voit des souliers. Qu'est-ce que vous pourriez interpréter, dire de ces souliers ? Ils ont beaucoup servi, oui. Ils ont beaucoup servi, vous avez raison.
Ils sont fatigués.
Donc vous voyez, en disant cela, ils sont fatigués. Vous avez personnalisé les chaussures. Voilà. Donc on porte une intention aux souliers d'être, d'une certaine façon personnalisé. Quoi d'autre encore ?
Il doit être bien dedans.
On doit être bien dedans.
Ils sont faits, hein.
Ils sont faits, oui, c'est vrai.
C'est une image de la pauvreté.
Une image de la pauvreté, oui, aussi, tout à fait.
L'environnement de la neige, enfin, ça évoque la neige un peu sale.
La neige un peu sale, quoi d'autre ?
Dans le sol,
tout à fait, madame.
Le titre nous annonce que...
Les vieux souliers aux lacets, oui, donc ils sont vieux. Déjà, ça nous dirige, mais vous voyez bien, au-delà de voir qu'ils sont vieux, ben vous voyez, on a pu dire, ben, ils symbolisent la pauvreté. Ce ne sont pas des souliers de personnes riches et aisées.
Ils ont une histoire lourde.
Ouais.
Plutôt masculin.
Ouais.
Ils sont pas pareils l'un et l'autre.
Quoi. Ouais, donc ils sont.
On peut imaginer la personne un peu boiteuse.
Ouais, c'est vrai.
Puis c'est du labeur, quoi, parce que la route dans laquelle on marche,
ouais.
On travaille, tout ça.
Ouais, tout à fait. Alors je vous propose que vous regardiez, et je vais vous lire un texte de Martin Heidegger. Voilà. Mais regardez le tableau plutôt que le texte, parce que ça vous mettra...
C'est drôle, parce que moi j'ai mis le texte là, hier soir, je sais plus quoi, et je savais pas que vous alliez montrer ce tableau, j'ai tout de suite vu les deux
chaussures,
ce tableau-là de Van Gogh.
Oui. Et d'habitude quand je fais un atelier sur les œuvres d'art, il y a des choses que j'ai reprises d'une conférence au Collège des Bernardins, mais j'avais pas ça, je me donne pas le texte avant.
Ouais. Mais ce texte, c'était ça. Ouais. J'ai tout de suite vu ça,
c'est deux. Ouais. Alors, je vous lis le texte.
Assez autonome parce qu'ils sont pas assez pareils.
Oui, et puis.
Le rabat n'est pas le même.
Ouais.
C'est pas exactement les mêmes.
Ceci dit, nos propres chaussures sont-elles usées de la même façon? On est tous un peu bancales et on peut voir là comment notre corps est bancal à la manière dont nous usons nos chaussures. Hein. Finalement, nos chaussures, elles disent beaucoup de nous.
Oui.
Hein, c'est vrai. Et aussi de notre...
Je me trompe peut-être, mais moi je vois deux pieds droits. Deux pieds gauches.
Ah, c'est possible. Il y a un truc, oui, peut-être. Bon, là je pourrais pas vous dire, mais voilà, on voit des tas de choses, voilà. Alors je vous lis le texte. Dans l'obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le long des sillons toujours semblables, s'étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par la terre grasse et humide. Par-dessus les semelles s'étend la solitude du chemin de campagne qui se perd dans le soir. À travers ses chaussures passe l'appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d'elle-même dans l'aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau aux besoins, l'angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre et il est à l'abri dans le monde de la paysanne. Tout cela, peut-être que nous ne le lisons que sur les souliers du tableau. La paysanne, par contre, porte simplement les souliers. Mais ce « tout simplement » est-il si simple? Quand, tard le soir, la paysanne, bien fatiguée, met de côté ses chaussures, quand chaque matin, à l'aube, elle les cherche, ou quand, au jour du repos, elle sait tout cela, sans qu'elle ait besoin d'observer ou de considérer quoi que ce soit. L'être produit du produit réside bien en son utilité, mais celle-ci, à son tour, repose dans la plénitude d'un être essentiel du produit. Nous l'appelons la solidité. Grâce à elle, la paysanne est confiée par ce produit à l'appel silencieux de la terre. Grâce au sol, qu'offre le produit à sa solidité, elle est soudée à son monde. Voilà. Comment ces chaussures nous montrent que la paysanne, elle est soudée à son monde, un peu comme les souliers ont pris l'empreinte de ses pieds et que voilà, elles sont voilà. Et en même temps, c'est dramatique de se dire, elle est tellement soudée à son monde qu'elle ne sortira jamais de ce monde-là. Qu'elle y est jusqu'à la mort. Voilà. C'est un texte magnifique, enfin, que je voulais vous partager. Je vous ai mis les références, donc Les chemins qui ne mènent nulle part, et donc de Martin Heidegger. Voilà.
Pardon, mais vu de loin, il y a un des lacets qui a une forme de menotte.
Ah oui, ici, là. Là, ici.
Oui,
oui, c'est vrai. Oui. On pourrait très bien interpréter là ce lacet qui vient enserrer, qui vient attacher. C'est pas simplement qui vient enlacer la cheville et le pied de la de la paysanne.
Et la terre.
Parce qu'il y a bien, il y a des chances pour que ce lacet soit terreux lui aussi.
Mais, ça correspond bien à ce que vous disiez tout à l'heure, de ne pas regarder le texte. Quand je vous ai écouté, j'ai compris la description physique.
Oui, déjà, c'est ça.
Et ensuite, ça s'est passé à une interprétation.
Oui.
Je pense que si j'avais lu le texte en même temps, je n'aurais pas eu ce même...
Ce même processus de, oui, d'interprétation et de se laisser porter par l'interprétation de quelqu'un d'autre. Oui. Mais en même temps, dans toutes vos suggestions, vous rejoignez le tableau et l'intentionnalité de l'auteur, et y compris le texte de Martin Heidegger. Oui. C'est-à-dire, même si vous avez lu le texte avant, il n'empêche que vous auriez pu dire aussi les mêmes choses à propos de ce soulier.
Et puis le terme produit, que moi je...
Oui, produit, ça, c'est pour parler des souliers. En fait, il met même un trait d'union entre être et produit. C'est-à-dire comme si les souliers faisaient partie intégrante de l'être de la paysanne.
C'est la synthèse entre la description physique et la partie d'interprétation.
Oui. Oui, mais c'est peut-être pour... Oui, mais oui, c'est ça. Mais dans cette interprétation, le fait de ne pas nommer les souliers, mais de changer le terme des souliers en produit, c'est peut-être plus, encore plus pour chosifier les souliers. C'est encore plus cette chose qui est essentielle à la paysanne et qui fait partie de son être. Ah, après, c'est une proposition.
Oui, on en a un peu ce que vous dites. Non, je me dis madame.
Ah oui. Oui, madame. Madame disait, est-ce que c'est pas une manière de ne pas nous laisser libres dans l'interprétation, c'est ça?
Le fait de ne pas nommer.
Le fait de ne pas nommer. De ne pas nommer le soulier de
le... Voilà.
Oui.
Le produit,
oui.
Ça n'influence pas.
Oui. Le fait de ne pas dire soulier, mais de dire produit, ça n'influence pas. Mais vous voyez bien, c'est que du coup, quand on lit le texte, on se pose la question, c'est quoi ce produit, d'où ça sort, pourquoi utilise-t-il ce terme-là? Mais ça, c'est mon interprétation, c'est qu'il veut chosifier au maximum les souliers.
Mais dites... C'est pas relié à toute la philosophie d'Heidegger sur
oui.
l'être.
Oui, ah. Bien sûr, oui. Tout à fait. Bon, on sait bien que Heidegger, qui était disciple de Husserl, a reproché à son maître d'avoir oublié l'être dans sa philosophie. Martin Heidegger revient à la dimension de l'être. Mais il vient dans cette dimension de l'être où l'être, il est existant en lien avec le monde dans lequel il vit. C'est pas un être satellite, c'est vraiment un être qui est vraiment inséré dans son monde. Et... voilà, donc
ces souliers, ils insèrent la paysanne dans son monde.
Oui, tout à fait.
Et on sent qu'elle n'a presque aucune liberté. Elle sait très bien que bon.
Aucune échappatoire.
Oui, voilà.
Ouais. Et d'ailleurs, dans le texte, à un moment donné, il met hein, chaque matin. On voit bien le rythme. Chaque matin, c'est-à-dire que il y a rien de Le recommencement.
Et surtout la répétition de l'habitude.
Hein. Oui.
La lassitude aussi, peut-être. Hein, parce que c'est un travail très pénible, bon. Mais elle sait que c'est ça sa vie. Et même si elle a une lassitude, elle met ses souliers et elle assume son rôle.
Elle l'assume, et puis on peut dire que les souliers, enfin Heidegger, il dit les souliers sont c'est le produit nécessaire. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas, elle pourrait pas aller au champ si elle n'avait pas ses souliers. Alors, je vous propose maintenant qu'on regarde un petit peu du côté de l'écriture sainte et l'image. C'est le point 2.2. On a dit que normalement,
l'inspiration vient de Dieu, la parole.
Oui, voilà.
Ce que tu dis ne m'intéresse pas.